RCF.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Notre invité est écrivain, scénariste, parolier, chanteur, auteur, compositeur, interprète. Il a à son actif plus d'une vingtaine de livres, adultes et jeunesse, et plus de 400 chansons. Multiprimé, cet artiste a été récompensé par l'Académie française. La SACEM a aussi reconnu son talent. Bonjour Jérôme Attal.
Bonjour.
Oui, on vous entend. Oui, très bien. Oui, j'ai eu une petite frayeur.
Ah, super.
Mais on vous entend parfaitement bien. Soyez le bienvenu. Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est
cette émission.
Plaisir.
Ah oui, vraiment plaisir partagé. Cette émission est la vôtre. Moi, je vous propose tout de suite d'y entrer.
Tout doux avec Bérangère Loup.
Grâce à la technologie, je vous vois, je vous entends. J'ai vu une petite marionnette dans vos mains. Qu'est-ce que c'était?
Non, c'était Paul McCartney que j'ai en poupée et il avait envie de venir dire bonjour.
En référence certainement à un de vos ouvrages.
Ah oui, parce qu'on va parler de mon livre sur les Beatles,
enfin
un petit peu, oui, tout
voilà,
à fait.
Non, mais
je suis un fan des Beatles, donc.
On va parler de vos choix musicaux, on va parler de vos livres, oui.
En fait, quand vous me présentez comme ça, il y a tellement de choses et les gens se disent, mais en fait, on le connaît pas. Et donc, je m'excuse à chaque fois de ne pas être assez connu par rapport à tout ce que j'ai fait.
On a une heure pour vous faire connaître, Jérôme Attal.
Ouais,
on va avoir justement l'occasion de parler de vos romans, de vos projets, de votre prochain album. Mais pour comprendre comment vous en êtes arrivé là, je vous propose de remonter un petit peu le temps. Est-ce que vous voulez bien remonter le temps avec moi?
Ben, ça fait toujours un peu peur, mais avec vous, j'ai moins peur. Donc,
c'est
plaisir.
Sympathique. Tout commence pour vous le 18 juillet 1970. Alors, c'est très drôle, parce qu'il y a à peu près un mois, on recevait ici la grande Sophie, qui, elle, est née le 18 juillet 1969. Vous auriez peut-être, si vous la connaissez, vous la connaissez personnellement, la grande Sophie, ou pas?
Mais non, pas du tout.
Vous pourriez être amie de date de naissance.
Bah oui, totalement. En plus, c'est le 18 juillet, c'est les cancers, donc c'est des gens un peu sensibles. Donc je suis heureux de savoir que la grande Sophie. Enfin, je connais pas trop sa musique, mais je vais l'écouter avec cette information supplémentaire.
Oui, n'hésitez pas. Alors moi, je vous propose de revenir à vous. Est-ce que vous pourriez nous préciser votre lieu de naissance?
Oui, c'est à Neuilly-sur-Seine, figurez-vous.
Vous êtes le petit-fils du peintre belge Jacques Collas. On dit Collas ou Collas?
Je pense qu'en tout cas dans ma famille on disait Collas, donc peut-être que c'est Collas, mais je voudrais pas vous contredire, mais c'est peut-être Collas.
Est-ce qu'on doit comprendre que vous avez grandi dans un environnement artistique?
Oui et non. En fait, mes parents étaient très différents et venaient d'horizons très différents. Donc, ils se sont rencontrés tard. En plus, ma maman, elle m'a eu à 45 ans, je crois. Pour l'époque, c'était déjà très, très tard. Donc, ils ont eu plein de vie avant. Et puis, ils se sont rencontrés, ils se sont aimés et ils ont fait un enfant. Et c'était moi, je suis arrivé. Mais mon grand-père, oui, c'était un peintre, mon grand-père maternel. Donc qui était belge et liégeois même d'origine. C'était un peintre un peu impressionniste qui a pas eu beaucoup de succès, mais qui a travaillé, qui a été l'élève d'un peintre belge un peu plus connu qui s'appelle Robert Kremlinck. Et c'est un peu du néo-impressionnisme. Il peignait beaucoup de paysages, de figures. Enfin, c'était du figuratif. Et effectivement, quand j'étais enfant, j'allais souvent en vacances dans sa maison qui était près de Hatt, la cité des géants, dans le Hainaut occidental. Et tout son grenier était réservé à ses toiles. Et c'était assez. J'en parle. Là, je suis en train d'écrire un petit éloge des chats qui va sortir en septembre. Et je parle de cette maison incroyable et du grenier où il y avait des portraits de femmes nues et des chats. Et pour moi, c'était un truc interdit. Évidemment, j'avais pas le droit d'y aller. Mais ça restait assez mythologique.
À quoi ressemble le petit Jérôme Attal? Il est sage, il est doux, il est rêveur, il est agité?
Oui, alors il est vraiment comme le titre de votre émission. Et maintenant, je suis pareil. Je reste tout doux. C'est-à-dire que j'étais un enfant très sage, un peu rêveur. Et c'est ce qui m'a permis peut-être. Moi, j'étais enfant unique, comme je vous disais, mes parents m'ont eu tard, donc j'avais beaucoup d'amis. Et ce que je préférais, c'était rentrer dans ma chambre et puis un peu. Ce que j'explique, et ce que j'écris aussi des romans jeunesse, et ce que j'explique aux enfants, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de distance entre l'enfant que j'étais et qui s'enfermait dans sa chambre et qui jouait avec ses Playmobil, avec ses Lego. Et aujourd'hui, je continue à écrire des histoires, à écrire des romans, sauf que j'ai des mots à la place des Playmobil et des Lego, mais c'est la même chose. Il n'y a pas vraiment de. Ouais, il y a une continuité entre mon enfance et aujourd'hui, ce que je fais et ce que je propose, j'ai l'impression.
À quel moment vous vous dites, je ferais bien de la musique mon métier?
En fait, j'habitais dans les Yvelines avec mes parents. Et il y avait que, quand on est enfant, c'est chouette parce qu'il y a des forêts, il y a la forêt de Marly, donc on fait des cabanes dans la forêt. Mais quand on arrive vers 13-14 ans, il n'y a plus que deux solutions, c'est soit la mobylette, soit la guitare. Et pour rassurer mes parents, je pense que j'ai choisi la guitare. Et puis j'avais l'impression aussi que la guitare pourrait canaliser ma mélancolie. Et en fait, ça a été l'inverse, évidemment. La musique, ça ne fait qu'augmenter votre mélancolie. Et puis, l'écriture, c'est venu assez vite parce que j'étais très romantique comme jeune garçon. Et donc, j'écrivais des lettres d'amour à des filles qui en avaient un peu rien à faire. Mais ça m'a permis de forger mon style. Donc, j'ai écrit. Et puis, voilà, ça m'a permis de m'exercer.
En 2005, vous sortez votre deuxième album qui se nomme Comme elle se donne. Je vous propose d'écouter un extrait du titre qui porte le même nom. On en parle ensuite. Okay.
De Récit Dolorès, il n'y a plus de métro. Ses tresses se confondent au cordon des rideaux. Elle parle de la pluie qui n'est qu'un lointain songe et d'une robe incroyable vue à Londres. Entre-ouvre la fenêtre, il fait chaud à mourir. Tu as vu, j'ai mis ce pont de Romain sur la touche. Comme la candeur de Clémence la surprend de désir. Elle met le dos de sa main sur la bouche. Elle voudrait voir comme elle se donne. Elle voudrait voir comme elle se donne. Celle du soir trône encore dans l'évier, comme une armée sans gloire qu'on accule au repos. Me prêteras-tu encore si je viens cet été, tes mules que j'adore de chez Ferragamo? Je ferme le rideau pour la tranquillité. Le voisin est gonflant, il m'espionne, c'est un fou. Fixe bien le miroir, mon ange, ma beauté. En te déshabillant, je te raconterai. Elle voudrait voir comme elle se donne. Elle voudrait voir comme elle se donne. Comme elle se donne.
Depuis 17h, nous accueillons Jérôme Attal. En interview, j'entends un petit agneau tout doux qui se présente comme un enfant qui est plutôt sage. Et là, sur ce titre, j'entends un rocker. C'est normal ?
Oui. Puis le titre est plutôt sensuel, j'ai envie de dire. Mais oui, c'est normal. Il y a deux ambiances de salle. Non, je sais pas. C'est normal. Non, j'aime bien ce côté. Il y a un côté quand on est sur scène où j'aime bien ce côté où il faut dire les choses un peu fermement. Je sais pas comment expliquer. Vous avez raison. Hein, c'est un peu. Mais j'ai l'impression de rester un peu doux quand même dans ce que
c'est
je.
C'est vrai. Je
chante
et
je raconte.
Oui. On entend la douceur et puis le texte bien soigné puisqu'en plus de composer et d'interpréter, vous écrivez aussi pour les autres. Je pense notamment à Vanessa Paradis. Comment s'est passée la rencontre et pourquoi pas avoir pensé à elle ?
En fait, ce qui est génial, c'est que donc moi j'écrivais, enfin je continue toujours, mais j'ai à l'époque de Vanessa Paradis, j'écrivais beaucoup de textes. J'étais plutôt sollicité pour écrire des textes pour des chanteuses et des chanteurs. Et puis je travaillais avec Ben Ricourt qui faisait ses premières parties. Et Ben m'a dit si on écrivait une chanson pour Vanessa, Ben Ricourt lui fait de la musique. Et donc ce qui est génial avec des artistes comme Vanessa Paradis, c'est des personnes qui font partie de votre panorama depuis toujours. Donc c'est très simple d'écrire parce qu'on a déjà une image, on a déjà son image de l'artiste et il n'y a plus qu'à se demander qu'est-ce que je peux apporter de plus par rapport à ma sensibilité, quelle est la petite chose que je peux apporter de plus par rapport à déjà une mythologie ou
c'est elle qui vient vous voir ou c'est vous qui frappez à la porte?
Non, là, alors ça dépend, hein, mais là pour Vanessa Paradis, c'est vraiment nous qui avons proposé la chanson. Et ce qui est chouette, c'est qu'elle l'a écoutée tout de suite et qu'elle l'a adorée et qu'elle l'a retenue, alors que des chansons, des artistes, c'est comme quand j'ai écrit pour Johnny Hallyday, c'est, ils reçoivent 2000 ou 3000 chansons parfois. Hein, et c'est, il faut juste trouver la sensibilité ou l'angle de la chanson qui va permettre justement de toucher l'artiste et lui donner envie de chanter votre texte.
C'est vous qui avez écrit le texte L'Amérique de William du dernier album de Johnny Hallyday, parce que vous avez fait référence à, ouais, à lui. Je voudrais qu'on entende un extrait aussi de Sombrero pour voir un peu l'ambiance dans laquelle vous avez mis Vanessa Paradis. Interprété par Vanessa Paradis, le texte est signé Jérôme Attal, notre invité ce soir. Ça vous fait quoi, Jérôme, d'entendre vos textes dans la bouche de quelqu'un d'autre, que ce soit Vanessa ou Johnny ou d'autres personnes?
Oh bah c'est toujours une émotion qui est... En fait, c'est assez compatible avec ce qu'est être un auteur ou une autrice, parce que on est, en tout cas, les parolières et les paroliers, on est souvent cachés derrière la chanson. Je me souviens, j'avais écrit une chanson pour Jennifer qui s'appelle L'envers du paradis, et je rentrais d'une dédicace d'un de mes livres au fin fond de la France où j'avais dû vendre. On était venu me chercher 2 ou 3 livres simplement, et donc j'avais fait tout un voyage. J'étais assez triste et déprimé, et je me disais voilà, personne me connaît, personne lit mes livres. Et tout ça, et je suis dans une gare, il pleut des cordes, et tout d'un coup il y a deux filles avec un écouteur filaire pour deux qui écoutent une des chansons que j'ai écrites pour Jennifer, L'envers du paradis, et elles chantent les paroles, et il y en a une qui fait ah, mais cette chanson c'est toute ma vie, et là vous êtes à côté, vous vous dites ah, mais quand même c'est chouette quoi, il y a un truc sympa. Donc c'est une émotion différente que celle d'être exposé vraiment, et puis qu'on voit votre figure partout, mais vous rentrez dans la vie des gens d'une manière en infusant peut-être d'une manière encore plus profonde, voilà, et c'est vraiment chouette. Alors moi je râle souvent parce que c'est vrai que les autrices et les auteurs en France, on est un peu la cinquième roue du carrosse, mais en même temps ça nous permet de pas être aveuglé comme ça par les lumières, et de pouvoir continuer à créer, à écrire et à écrire encore.
Et où trouvez-vous justement cette source d'inspiration? Vous parlez de Vanessa Paradis, c'est un peu votre génération, mais Jennifer, c'est plus la vôtre. Comment vous faites pour rester avec des thématiques actuelles en prenant de l'âge et de l'expérience?
Ben oui, alors ce que vous dites, ce qui est génial dans l'écriture, et j'imagine qu'il y a beaucoup de vos auditrices et de vos auditeurs qui écrivent, ou qui ont, que ce soit des romans, ou de la poésie, ou des chansons, c'est plus on a de l'expérience, généralement mieux c'est. On va plus vite. Parce qu'on s'appartient mieux déjà, et l'important c'est de réduire la distance entre ce qu'on est soi profondément et ce qu'on a envie de transmettre, et la manière dont on le transmet aux gens. Mais j'ai écrit un livre qui s'appelle 37 étoiles filantes, qui parlait de Giacometti. C'est Giacometti qui veut casser la gueule à Sartre à Paris dans les années 30.
Vous avez Giacometti, été récompensé pour ce roman, parce que vous dites oui, personne ne me lit, enfin bon, vous avez de nombreuses récompenses quand même. Si, vous avez dit ça, mais, oui, personne ne me lit, c'est faux, hein. Non, n'écoutez pas ce que Jérôme Attal dit sur le fait que personne ne le lise, c'est faux. Hein.
Mais Giacometti, il a ce problème de distance. Vous voyez, sur ses sculptures, il y a des pouces, il y a des tâtonnements. Il aimerait que ce qu'il a dans le cœur soit transmis exactement dans ce qu'il livre une fois que c'est terminé. Et je pense que l'artiste, on est tout le temps dans cette problématique-là. Donc, il faut essayer faut être opiniâtre, il faut... Je réponds pas du tout à votre question, hein. Pardon, je suis parti un peu dans mon truc.
Là. Vous répondez complètement à la question qui dit comment on fait pour rester toujours actuel avec...
Ouais. Et après, la modernité, c'est quelque chose, il faut toujours être attentif à ce qui se passe, il faut travailler dans un contexte, il faut travailler par rapport aux choses qu'on aime, aux choses qui nous touchent, il faut, c'est ça, et puis il faut faut parler à son époque. Vous voyez, en littérature, il y a des filles aujourd'hui comme Sally Rooney, qui est une autrice que j'adore, qui est une jeune Irlandaise de 27-28 ans, et qui a un succès de dingue parce qu'elle parle à sa génération, et elle parle à son époque. Et voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est à la fois parler à son époque et en même temps être assez intemporel pour que ce que vous écrivez ne soit pas tout de suite désuet. Et c'est ça le challenge de l'écriture, j'ai l'impression.
Et c'est pas si évident, en effet. Je voudrais écouter à présent une autre composition, toujours pour quelqu'un d'autre que vous. Il s'agit de Talisco. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet artiste et la raison qui vous a poussé à écrire sur son album à venir ?
Oui, alors Talisco, il écrit en anglais généralement, et il a eu beaucoup de succès avec deux de ses précédents albums, et puis il a pas mal de choses incroyables. Une de ses musiques a été prise pour la publicité Côte d'Or. Alors je dis ça parce que moi je suis à moitié belge, comme vous savez, et donc le Côte d'Or pour moi c'est toute mon enfance, donc déjà cette histoire me plaît. Et puis c'est lui qui fait le générique que vous devez connaître de Un si grand soleil, l'émission, la sitcom sur France 2, c'est lui qui a signé le générique aussi. Et donc il a un grand succès avec ses chansons de façon internationale, sur la scène internationale, et pour la première fois là il a envie de chanter dans sa langue maternelle, et donc il m'a demandé de coécrire certains titres avec lui de son album là, qui va bientôt sortir et dont on va écouter le premier single.
C'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait, la musique, les textes?
Non, j'écris avec lui les textes, évidemment. Ouais, les textes. Enfin, j'ai écrit avec lui, je coécris certains titres.
Voici Talisco avec C'est ici.
C'est ici. C'est ici. C'est ici qu'on m'a dit qu'on pouvait danser. Danser dans la nuit sans tomber. C'est ici qu'on m'a dit qu'on pouvait sauter. Sauter et un jour s'envoler. On est tous un peu vides et la séance est en rêve. Tous des moments où l'été sera grand. On n'est jamais avide de croire ces instants. Et pourtant c'est ainsi, c'est ici que l'on vit. C'est ici. C'est ici. C'est ici qu'on m'a dit qu'on pouvait danser. Danser dans la nuit sans tomber. C'est ici qu'on m'a dit qu'on pouvait plonger. Plonger sans couler, sans nager. C'est ici. Héritier d'un été rancunier sans frisson. À regarder les lignes sans réponse et sans fond. On dit tout, on voit tout, on y croit malgré soi. On ricane, on oublie, on y perd le sang-froid.
C'est ici.
Talisco avec C'est ici, texte signé par Jérôme Attal, notre invité jusqu'à 18h. En 2020, vous obtenez le prix SACEM de la chanson française dans la catégorie créatrice. Dans quel état d'esprit êtes-vous quand vous recevez cette récompense ?
Bah, c'était pendant le confinement, donc il n'y a pas eu grand-chose malheureusement suite à ce prix, mais c'est toujours, en tout cas, c'est toujours flatteur d'être reconnu par les siens, parce que c'est un prix SACEM, donc qui est décerné par les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Donc en fait, c'est comme quand j'écris pour Vanessa Paradis, c'est que ce texte, je deviens un des auteurs de Vanessa, comme il y a eu Étienne Rodagil, comme il y a eu Serge Gainsbourg. Donc c'est très chouette de pouvoir s'asseoir à la table des grands pour repartir de cette idée de petit enfant que j'étais au début de notre émission. Donc voilà, c'est super. Et puis surtout, ils ont sorti mon catalogue de chansons. Et puis j'ai vu que j'avais quand même beaucoup de chansons écrites. Et puis voilà, mais je commence à vieillir un peu. Donc évidemment, je travaille. Mais
Et vous continuez à travailler, parce qu'actuellement vous fignolez votre prochain album. À quoi va-t-il ressembler?
Oui. Alors j'ai travaillé, alors moi ça faisait 18 ans depuis Comme elle se donne, là qu'on vient d'écouter, ça fait 18 ans que j'avais pas fait de chanson, parce que j'écris beaucoup de livres, hein, la littérature m'a complètement absorbé, que ce soit la littérature pour les adultes et la littérature jeunesse aussi, et là grâce à Rodolphe Dardaillon de Roy Music, qui m'a proposé de refaire un disque, et j'ai travaillé avec deux jeunes compositeurs qui s'appelle les Norois, N-O-R-O-Y, je crois que c'est un vent breton, l'origine de ce mot Norois, et c'est deux jeunes types géniaux qui ont aussi leur projet par ailleurs, et qui ont fait toutes les musiques et qui ont composé sur mes textes, et vraiment ils m'ont concocté des chansons que j'adore, et je suis très impatient.
Ça m'a parlé de quoi?
Les thématiques, bon, ça reste des chansons d'amour, hein. Moi, j'adore la chanson d'amour. Je sais pas quoi écrire d'autre, d'ailleurs. Mm-hmm. C'est les chansons que je préfère aussi. En fait, j'adore quand j'écoute une chanson à la radio et tout de suite pouvoir me la faire mienne, pouvoir
l'approprier.
Toutes mes préoccupations du moment, qu'elle trouve un écho dans cette chanson. Donc, j'essaye de faire des chansons très personnelles et en même temps qui soient assez ouvertes pour que l'auditrice et l'auditeur puissent vraiment. Oui, ou comme un doudou. J'aime bien les chansons doudou aussi, les chansons un peu refuge. Et surtout, ce que j'explique dans mes ateliers d'écriture, c'est de chansons notamment, c'est qu'il y a, pour moi, il y a trois trucs dans une chanson. C'est la première, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous happe. Alors ça peut être une phrase ou une accroche mélodique. C'est voilà. Une émotion, il faut que ça produise de l'émotion et surtout qu'on ait envie de la réécouter. Si on n'a pas envie de la réécouter tout de suite, il faut avoir une consommation comme ça adolescente de la chanson. Et donc j'ai essayé de faire des chansons comme ça. Alors ce sera, je dis pas que j'ai réussi, hein, mais j'ai essayé de faire des chansons qu'on a envie de réécouter déjà.
Vous avez parlé de trois choses.
Si on a envie de les réécouter, ce sera bien.
Trois choses pour faire une chanson. Que l'on soit happé, qu'il y ait de l'émotion, c'est la deuxième, c'est ça. Et la troisième,
bien sûr.
Vous avez dit
qu'on a envie de la réécouter, c'est la plus importante, qu'on a envie de la réécouter tout de suite.
Comment va s'appeler votre album, vous le savez déjà ?
Eh bien non, je ne sais pas encore. Il est enregistré, toutes les chansons sont faites. Il y a pas mal de voix féminines, ça, parce que c'est un truc auquel je tenais. Et il y a des filles géniales que j'ai rencontrées, notamment à Astafor, chez Francis Cabrel, où je coach un peu les textes des participants à Astafor. Et j'ai rencontré une fille qui s'appelle Melba, qui est géniale, qui viendra chanter sur le disque. Il y a Juliette Bossé aussi, que j'adore et qui a une voix incroyable. Et il y aura un duo avec Gaëtan Abrial du groupe Bonheur. Et voilà, donc il va y avoir pas mal de participation féminine, et puis j'espère qu'il y en aura d'autres aussi si on fait une version deluxe de l'album comme ça se fait aujourd'hui. Donc il y aura peut-être des titres un peu supplémentaires.
Est-ce que vous savez quand est-ce que l'album va sortir?
Alors a priori, normalement, le single c'est le 19 mai, le premier single. Je pense qu'il y aura un deuxième single assez vite, et si tout va bien, cet automne.
Il va falloir chercher un titre rapidement, hein, et en trouver un.
À l'album, Mais ça, je sais pas, il y a deux écoles. Il y a soit ceux, je sais pas ce que vous en pensez, Bérangère, vous allez me dire, justement. Il y a celles et ceux qui aiment bien avoir un titre d'une des chansons comme titre de l'album, et il y a celles et ceux qui aiment bien avoir un titre qu'on ne retrouve pas dans le tracklisting des chansons.
De la deuxième catégorie.
Je préfère avoir un titre qui n'a rien à voir avec un titre de l'album.
C'est votre côté littéraire, je
pense. Ah, peut-être. Et qui résume un peu l'esprit. Voilà,
oui, c'est
j'aime
ça.
Bien ça.
Ou qui emporte ailleurs,
c'est
ou comme un titre de chapitre.
Tout
en
à fait, exactement. C'est mon avis très personnel. Mais on va pouvoir demander l'avis à Pascal Aspe, parce que j'allais vous demander si vous avez le temps de cultiver votre jardin, parce qu'on va ouvrir le volet jardinage avec lui. Et vous allez voir, Oui, dites-moi.
Je peux vous dire un petit truc.
Allez-y.
Il y a un texte génial de Michel Foucault qui s'appelle Les hétérotopies, et il dit que l'écrivain, c'est comme un jardinier, que l'écrivain doit soigner son texte comme un jardin. C'est.
Et j'allais vous demander si vous avez le temps, vous, de cultiver le vôtre de jardin, dans tous les sens du terme. Hein. Est-ce que vous en avez un déjà, et est-ce que le vôtre à l'intérieur de vous?
Non, j'adorerais en avoir un petit qui me prenne pas beaucoup de temps à le cultiver. J'en ai pas, je le regrette parce que voilà, c'est encore une histoire de famille. Mes parents avaient un jardin et je trouve que le jardin est très important. Mais le texte est un jardin et c'est ce que dit Foucault, c'est-à-dire que parfois il doit y avoir des phrases qui sont incroyables, un peu comme des plantes incroyables dans le jardin. Et en même temps, ces phrases incroyables ne doivent pas nuire à la visibilité de l'ensemble. Il faut pouvoir faire le tour de son texte comme on fait le tour d'un jardin dans l'idéal.
Accueillons justement Pascal Aspe pour avoir son avis sur le sujet.
Tout doux, tout ce jardin.
Pascal Aspe est responsable des jardins au Centre écologique de Terre Vivante. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Que pensez-vous de la réflexion de notre invité, Jérôme Attal?
J'ai bien aimé. Alors, je suis pas écrivain. Enfin, j'ai écrit des livres de jardinage, mais je sais pas si on appelle ça écrivain. Mais j'ai bien aimé l'idée de soigner son texte comme son jardin.
Vous allez vous retrouver aussi sur le Centre écologique de Terre Vivante, parce que vous allez nous le présenter dans une poignée de secondes. Et je pense que ça va aussi beaucoup séduire notre invité, Jérôme Attal. Mais aujourd'hui, vous avez envie de nous parler du potager des plants greffés. Alors déjà, pourquoi ce sujet? Et puis surtout, comment on fait?
Alors, les plants greffés, pourquoi on va parler des plants greffés? Parce qu'on est dans la période, ça va bientôt être l'époque de planter les tomates. On va dire que le sud a déjà planté les tomates et que les gens qui sont pas pourtant méditerranéens, ils vont attendre vers le 10, 15 mai et ils vont les planter. Donc on va se poser la question, quel type de tomate je vais planter? Soit la tomate classique, on met une graine, elle pousse et on plante la tomate, soit des plants greffés. Et les plants greffés, ils sont intéressants quand on n'est pas dans le pourtour méditerranéen. Donc là, on parle de tomates greffées, d'aubergines greffées, de melons greffés. Et quand on n'est pas dans le pourtour méditerranéen et qu'on est des fois dans des conditions un peu limites pour faire de l'aubergine ou du melon, ça vaut le coup de planter des plants greffés.
Je reviens sur ce que nous a dit Jérôme Attal sur le fait qu'il n'a pas de jardin. Est-ce que si on a une petite terrasse, un petit balcon, est-ce qu'on peut aussi faire ce que vous êtes en train de nous proposer?
Ah ben oui, c'est d'autant plus intéressant d'ailleurs de mettre un plant greffé, parce que généralement, mais quand on a un plant greffé, il est plus résistant aux maladies, il est plus vigoureux et il produit plus. Donc on va dire, quand on a un petit jardin, eh ben c'est encore plus intéressant d'avoir des plants greffés, comme ça peut-être qu'avec une aubergine greffée, on produit autant qu'avec trois aubergines pas greffées, donc ça vaut quand même le coup.
Ah oui, complètement. Comment on fait? Comment ça marche?
Alors vous pouvez greffer, mais c'est un peu compliqué. Déjà, il faut démarrer très tôt en saison et puis il faut un peu de technique. Donc on va dire que là, on va partir du principe qu'on va aller l'acheter chez un pépiniériste ou dans une jardinerie et on va acheter un plant greffé. Attention, c'est quand même plus cher qu'un plant non greffé. Donc allez, on évite de les casser, de faire n'importe quoi avec, mais on va les acheter.
Donc ça, c'est la première chose. Ça coûte cher, pas cher, c'est accessible?
Oui, ça coûte 5-6 euros, ça coûte un petit peu cher, on va dire, des plants greffés. Mmh. Et pourquoi ça coûte cher? Parce qu'en fait, il y a eu un geste technique où on a semé une graine, par exemple une graine de tomate, d'accord? Et après, on a coupé la tomate et par-dessus, on a mis un petit bout, un greffon, par exemple, d'aubergine. Et en fait, l'aubergine va pousser sur le système racinaire de la tomate. Mmh. Et la tomate, qui a plus de vigueur, va donner sa vigueur à l'aubergine. Donc, on va bien manger des aubergines, parce que ce qui va porter des fruits, c'est le greffon qui est au-dessus. Mmh. Mais le porte-greffe qui est en dessous, eh ben, c'était une tomate. Et donc, ce geste technique qui fait qu'il faut semer tôt, greffer, avoir des chambres un peu saturées d'humidité, tout ça, ben oui, ça prend du temps. Et donc, forcément, c'est un peu plus cher.
Est-ce que c'est ça, votre mise en garde? Parce qu'en préparant la chronique, vous m'avez dit, attention, hein, il y a une mise en garde, attention, tout facile.
Alors non, la grosse mise en garde, c'est une fois que vous l'avez acheté, vous savez, il y a un point qu'on appelle le point de greffe, qui était la jonction entre le porte-greffe, donc ce qui fait les racines, et le greffon, ce qui va porter les fruits. Ce point de greffe, ce bourrelet de greffe, il faut pas l'enterrer quand vous achetez un plant greffé. On a tendance à dire, quand on plante des tomates ou des aubergines de manière classique, enterrez un peu la tige, elle va émettre des racines, ça fera des plants plus vigoureux. Oui, sauf que quand ils sont greffés, Si vous enterrez la tige, eh ben le risque c'est quoi? Eh ben c'est que le greffon, donc la partie supérieure, s'affranchisse, donc en gros se redevienne en gros autonome, fasse ses propres racines, et du coup vous perdez l'intérêt du greffage. Mmh. Et donc du coup quand on a des plans greffés, eh ben au contraire on n'enterre pas trop les tiges, ouais, et on laisse bien le point de greffe hors du sol.
On laisse respirer tout ça. Merci Pascal pour ces bonnes idées. Je rappelle que vous êtes le responsable des jardins au Centre écologique de Terre Vivante. Jérôme, vous connaissez Terre Vivante?
Mais non, pas du tout, ça m'a l'air très intéressant.
Ah oui, Pascal, est-ce que vous nous faites la visite?
Oui, alors, Terre Vivante, c'est une maison d'édition qui fait, donc ça va parler à votre invité, une maison d'édition qui fait des livres sur le jardinage, qui fait un magazine, les 4 saisons, sur le jardinage aussi, et qui a aussi un lieu, un domaine de 50 hectares, où on accueille du public, des visites guidées, des formations pour les particuliers, pour les professionnels. Donc dans ce domaine, ben voilà, vous visitez des jardins, des expositions sur l'habitat écologique, des ruches, des poules, des canards, des balades dans la forêt. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de mettre en scène l'écologie et d'en profiter lors d'une visite ou d'une formation.
Et où se trouve votre domaine?
En Isère, allez, une heure au sud de Grenoble.
Mm-hmm. Jérôme, vous vouliez poser une question?
Il y a un très beau livre qui s'appelle Jardin en temps de guerre. Je ne connais plus l'auteur, c'est sorti chez Actes Sud, je crois. Et c'est l'auteur est allé dans tous les jardins d'écrivains. Il est allé dans le jardin de Beckett, il est allé dans le jardin de je ne sais plus qui. Et c'est un très très beau livre, Jardin en temps de guerre.
De
il
Théodore
a revisité
Céric.
Les jardins. Oui, exactement. Vous l'avez lu ou pas?
Pas vraiment, mais j'ai googlé devant moi.
D'accord. C'est la magie de Google. Mais franchement, c'est un livre. Moi, c'est un des livres que j'ai beaucoup offert à l'époque où il est sorti et qui est admirable.
Pascal, vous connaissez ce livre?
Non, pas du tout. Je le googlerai aussi pour voir ce que ça donne.
Et le titre, il est joli d'ailleurs, Jardin en temps de guerre, parce que ça montre que même en temps de guerre, le jardin qui n'a rien demandé à personne, qui n'a pas demandé à être bombardé, est toujours ce petit espace à préserver. Et si on préservait ce monde comme un jardin, ce serait beau, quoi.
Voilà.
C'est ma réflexion un peu Miss France de la journée.
mais vous faites bien. Ça fait du bien. Merci Pascal, en tout cas, pour ces conseils précieux. On vous retrouve avec le même plaisir dès jeudi prochain.
Merci.
17h-18h, c'est tout doux sur RCF.
On va continuer d'évoquer la belle carrière de notre invité, auteur, compositeur, interprète, scénariste également, parolier, créateur d'ateliers d'écriture. À tout de suite sur RCF et avec Jérôme Attal.
Tout doux avec Bérangère Loup.
Et aussi en compagnie de Jérôme Attal, notre invité, auteur, compositeur, interprète, parolier, écrivain. Il évoque son futur album et revient sur l'ensemble de sa carrière. Je vais de nouveau remonter le temps. En 2007, vous écrivez L'amoureux en lambeaux. Et depuis, de nombreux autres livres ont vu le jour. Des récits, des livres de jeunesse, vous l'avez dit, ont fait leur apparition aussi. Que préférez-vous écrire? Un roman, un récit, un livre de jeunesse? Vous avez dit aussi tout à l'heure L'éloge des chats. Qu'est-ce que vous préférez?
Oui, Le petit éloge des chats, là je viens de le rendre, il sortira en septembre. Non, en fait, j'essaye de faire une œuvre et j'essaye aussi qu'il y ait une viscéralité dans ce que j'écris. Donc il faut que le roman ou l'idée de roman que je vais trouver soit vraiment dans les préoccupations que j'ai au moment où j'écris, pour qu'il y ait vraiment quelque chose de viscéral.
On comprend mieux l'éloge du chat. D'accord, la préoccupation du moment, en ce moment dans votre vie, sont les chats.
Eh bien, figurez-vous, oui.
Oui. Racontez-nous pourquoi.
Un aveu.
Oui, dites-nous.
Alors, mon amoureuse a voulu un chat. Mm-hmm. Et depuis, c'est un peu comme Karl Lagerfeld avec Choupette. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça.
On remet un peu ça, oui.
Je suis devenu dingue un peu de ce chat qui s'appelle Mitzi. Et qui dort là, non loin de moi, voilà. Et donc après, cet amour soudain des chats a connecté avec tout ce que j'aimais dans les chats, c'est-à-dire Catwoman, les toiles de Balthus, le côté très indépendant, le chat roux dans Breakfast at Tiffany's. Je ne sais pas si vous vous rappelez,
oui,
qui participe vraiment un peu à l'intrigue du film et à la fin du film. Et puis voilà, le chat qui venait de l'espace de Walt Disney, E.T., dont le E.T., la marionnette, a été créé d'après le chat de la famille du sculpteur. Enfin, il y avait tellement de choses, la sorcière et le chat, sur le féminisme. Enfin, il y avait des tas de choses à dire et à creuser sur cette histoire du chat, voilà, que je suis rentré à fond. Mais moi, je suis un enthousiaste. Donc dès qu'il y a un sujet, dès qu'il y a un truc qui connecte avec un... Voilà, je plonge dedans et j'écris.
Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question, Jérôme, si vous la trouvez trop personnelle, mais elle a un lien avec la suivante. Est-ce que vous avez des enfants?
Non. En fait, l'enfant, c'est moi. C'est ce que je dis quand je fais des ateliers d'écriture jeunesse aux participants. Je leur dis, mais alors, testez tout ce que vous voulez sur moi, parce que le seul intérêt de cet atelier, c'est que l'enfant, c'est moi. Vous pouvez tester toutes vos idées, tous vos trucs. Mais non, j'ai pas encore d'enfant, non.
Vous en souhaitez?
Plus le temps passe, plus je me dis que j'en sais rien en fait. Mais je travaille tellement et puis je suis tellement, en fait, je suis tout aussi au contact d'enfants tout le temps parce que je fais beaucoup d'écoles, je fais beaucoup dans les CM1, CM2. Là, j'ai participé, j'ai eu la chance qu'un de mes livres, Alcie et la forêt des fantômes chagrins, et la suite Alcie et le pensionnat d'Alcatros, soit sélectionné pour le concours des petits champions de la lecture, qui est un concours national extraordinaire où des enfants lisent devant leur classe et puis il y a des finales régionales, départementales, régionales et puis une finale nationale. Et donc j'ai eu la chance de participer à cette aventure. Donc je suis allé dans beaucoup de classes pour voir les élèves. Et maintenant je me déplace beaucoup et je fréquente beaucoup d'enfants grâce à mes livres jeunesse. Et c'est toujours revitalisant. Moi j'arrive dans les classes et je leur dis voilà, je m'appelle Jérôme, j'écris des histoires. Si on écrivait une histoire ensemble, ils sont tous là. Ouais, ouais. Il y a des tas d'idées qui fusent et tout ça. Et c'est super aussi de voir que les enfants, malgré tout ce qu'on dit, peuvent avoir un rapport avec l'objet livre aussi fort qu'avec une tablette ou avec un téléphone. Ça reste vraiment quand les profs et les instituteurs et les parents y mettent du leur, vraiment les enfants peuvent s'attacher au livre aussi en tant qu'objet.
Vous proposez aussi de nombreux ateliers d'écriture. Pourquoi faites-vous ça? Et puis surtout, donc on a compris que ça peut vous apporter aussi du dynamisme, de l'engouement. Mais qu'est-ce qu'on peut ressortir avec quoi à l'issue de ces ateliers d'écriture?
J'en fais par exemple dans plusieurs structures, notamment pour la chanson à Astafort chez Francis Cabrel, et j'en fais à l'école Les Mots aussi, plutôt pour la littérature à Paris, qui est une école de creative writing, comme il y a un peu aux États-Unis. En fait, moi ce que j'adore, c'est être au contact de la création. Donc j'adore pouvoir aussi accoucher des idées des autres et les accompagner dans leur idée de création. Donc c'est ça qui me plaît vraiment dans... Puis l'émulation, j'aime beaucoup l'émulation de l'atelier. Et voilà, il y a beaucoup de vertus dans l'atelier d'écriture parce que on lit ses textes, donc c'est désinhibant, on oublie un peu ses peurs et puis on forge son style aussi en travaillant, c'est sûr.
En plus de toutes les casquettes évoquées, j'en ajoute une nouvelle. Vous écrivez des scénarios ou des dialogues pour le cinéma. Je pense à La fille aux allumettes, Hôtel du paradis, Alice Island ou Island. Je ne sais pas si on prononce le S. Alice Island. On dit les deux. Ou encore Elisabeth s'en va en guerre. Est-ce que c'est vous qui frappez à la porte ou l'on vient vous chercher?
Non, parce que moi je suis très timide, donc j'ai la chance qu'on vienne toujours me chercher pour des choses. Donc je ne sais pas frapper aux portes. J'adorerais. Je pense que si j'avais 20 ans aujourd'hui, je me dirais ah c'est quand même pas mal d'aller saisir sa chance et d'aller frapper aux portes. Mais ça n'a jamais été mon tempérament. Comme je vous disais, moi j'étais plutôt un enfant sage et j'ai pas eu besoin non plus d'aller frapper aux portes. Donc,
Qu'est-ce que vous préférez, écrire pour le cinéma, écrire pour un artiste, écrire pour vos romans?
Non, ce que je préfère, c'est développer une œuvre personnelle, je pense. Et donc parfois, il y a des collaborations, et puis j'écris. Mais ce que je préfère, c'est peut-être les romans, et puis les chansons. Et voilà, c'est faire une œuvre personnelle et travailler avec des gens, et ou rencontrer des éditeurs, des éditrices, qui me donnent les moyens de poursuivre cette œuvre. Mmh. C'est ça qui me plaît.
On va rester dans l'univers cinématographique en accueillant Valérie de Manarc, notre spécialiste cinéma.
Tout doux, le film de la semaine.
Jérôme, le micro reste ouvert, vous allez pouvoir intervenir évidemment. Bonjour Valérie.
Bonjour Bérangère.
Votre film de la semaine pour Tout doux, c'est la nouvelle comédie de Danny Boone. C'est son 8e long métrage en tant que réalisateur et son titre, La vie pour de vrai.
Oui, c'est ça. C'est vrai que je dois vous avouer que je ne précipite pas forcément pour aller voir les films de Danny Boone habituellement, mais j'ai trouvé que l'idée de départ était assez drôle. Hein, l'histoire de cet homme de 50 ans qui débarque à Paris sans n'avoir jamais quitté le Club Med où il est né, avec bon évidemment tous les gags qu'on imagine liés au choc entre une vie sous les tropiques et la capitale parisienne aujourd'hui. Donc c'est Danny Boone qui incarne aussi le bien nommé Trident. Alors son prénom lui a été donné par ses parents en hommage au club de vacances où ils se sont rencontrés. Et Trident, ben c'est un beau double du personnage que s'est créé le comique préféré des Français. Hein, c'est un personnage à la fois naïf, simple, un cœur tendre, un peu inadapté au monde moderne et un peu idéaliste aussi, hein, qui rêve de retrouver son amour de jeunesse. C'est la jeune Violette qu'il a rencontrée sur la plage à 8 ans.
C'est qui ?
J'étais au Club Med de ma naissance à maintenant.
Je m'appelle Trident. Trident, du Club Med.
Tu pourrais quand même accueillir ton petit frère.
Demi-frère.
Ah, encore mieux, je prends moins de place. Je veux retrouver mon amour d'enfance de mes 8 ans, Violette.
Je peux dormir ici alors ?
Oui.
Je le savais, ça pourrait être
trop. Voilà.
Bah, faut que tu t'arranges, je peux aller retrouver. Hein.
T'as plus 8 ans toi non plus. Hein.
T'as vu ta gueule, on dirait un charpé.
Quoi ?
Tiens.
C'est moi ça ?
Ouais.
Eh ben, il lui ressemble pas du tout, lui.
Mais bien sûr que tu lui ressembles. Je lui dis que t'es marié, que t'as des enfants, que vous retrouvez ici une erreur, que sa ville est là-bas, là, au Club Med.
Déjà, tu t'appelles plus Roxane, tu t'appelles Violette.
Ok, je m'appelle Violette.
Voilà. Roxane ?
Quoi ?
Non, tu t'appelles Violette.
Oui, ok, pardon.
Ah.
Détends-toi, chérie.
Non, je suis trop grave dans la mer pour me détendre, je te jure.
Oh, mon pauvre Louis. Toi, tu t'appelles toujours Louis ?
Évidemment.
Oh, je te blague. J'ai l'impression d'être dans un film d'espionnage. J'adore, c'est excitant. Oh, je suis si heureuse. Après tant d'années, j'ai retrouvé l'amour de ma vie, Frident.
Non, Trident, pas Frident. Frident, c'est un dentifrice. Regarde-le bien, c'est important que tu le reconnaisses. Baisse-toi.
Faudrait savoir, je me baisse ou je le regarde.
Tais-toi.
J'ai une grande nouvelle pour toi. Regarde ce que j'ai retrouvé.
Non.
Mon Trident. Il y a Trident dedans, mais ça fait si longtemps.
Trident.
Oh, Trident. Oui, pardon. C'est l'émotion de le revoir.
Oh, Violette.
Alors, on l'a compris, hein, la vie pour de vrai qu'il découvre en arrivant à Paris, c'est notamment l'existence de Louis, son demi-frère, qui occupe son appartement.
Voilà, et puis qui est joué par Cadmerade, hein, qui est le complice de Danny Boone à la ville comme à l'écran depuis Bienvenue chez les Ch'tis, hein, il y a 15 ans. Alors l'autre bonne surprise du casting, vous l'avez peut-être reconnu, c'est Charlotte Gainsbourg, qu'on est vraiment heureux de retrouver dans un registre comique. Hein, on lui avait découvert ce talent-là face à Alain Chabat dans Prête-moi ta main, et on la retrouve ici aussi décomplexée et drôle dans le rôle donc de cette fausse Violette que Louis lui présente en espérant se débarrasser de lui. Alors le film tient vraiment la route déjà grâce à ce beau trio d'acteurs. Et puis c'est aussi une jolie fable moderne sur un peu les travers de notre société contemporaine. Il y brocarde la place de l'argent avec ce gars un peu simplé qui oublie de payer, parce qu'évidemment au Club Med tout est compris. Et puis il y a aussi une scène dans le métro où il se met à faire applaudir la rame entière pour accueillir ceux qui montent, hein, et pour enfin voir les passagers sourire.
Mais Valérie, le paradis des vacances éternelles, ça n'existe pas non plus.
Évidemment. Alors, et d'ailleurs, Trident a été traumatisé enfant par les copains qui repartaient chaque semaine quand lui restait sur place. Alors, du coup, il peut plus voir un quart sans fondre en larmes, ce qui donne encore quelques scènes assez cocasses. Et alors, contrairement au titre, hein, le film, c'est effectivement tout sauf la vraie vie, mais parfois, la fiction nous y ramène en douceur et avec humour.
Mmh, j'en conclus donc que c'est une belle comédie romantique.
Bien oui, parce qu'il est effectivement revenu pour trouver celle qui est, selon lui, la femme de sa vie. Et là aussi, le réalisateur en profite pour se moquer gentiment alors des sites de rencontres en ligne, pas en tant que tel, mais plutôt du diktat des apparences que ça génère, de la un peu quand même de la superficialité des rencontres qu'on y fait, voire de l'aspect assez consumériste de la relation amoureuse. Mais bon, ça reste quand même une comédie bienveillante, tendre, et puis comme les films précédents de Danny Boone, hein, ça devrait rencontrer un large public.
Valérie, je vous garde quelques secondes, je me tourne vers Jérôme Attal. Jérôme, c'est le genre de film que vous pourriez aller voir au cinéma ? Honnêtement.
Oui. En tout cas, je trouve qu'il y a des idées très poétiques. Moi, je trouve ça... j'adore cette idée du type qui pleure parce que ses copains partent à chaque saison. Je trouve que c'est une idée assez forte pour les romans jeunesse, parce que moi, je me souviens très bien du passage, par exemple, du CM2 à la 6e, ou du collège. J'étais à Saint-Augustin, à Saint-Germain-en-Laye, chez les très chers frères des écoles chrétiennes, et je suis passé à Notre-Dame de Verneuil, et j'y avais plus du tout les mêmes copains. C'était plus le... Voilà, c'est des petits rites de passage comme ça quand on est enfant, je trouve. Et j'aime bien cette idée. Je trouve que l'idée de Danny Boone, là, de ce type qui a vécu au Club Med et qui a vu ses copains partir à chaque saison dans le bus, et que plus tard, il soit dans Paris et il pleure. Alors, j'ai pas vu le film, mais je l'imagine pleurer quand il voit un bus qui part. Je trouve que c'est une idée très poétique.
Valérie, vous validez, hein, parce que vous disiez au départ que vous ne courez pas voir les films de Danny Boone, mais vous avez quand même été clairement séduite.
Bah, sur l'idée de base, effectivement, et c'est vrai qu'il y a un peu de tout ça dans Danny Boone. Il y a du burlesque, de la poésie, de l'humour. C'est plus complexe que ça en a l'air.
Merci Valérie, en tout cas, pour toutes ces précisions. On vous retrouve avec le même plaisir aussi, c'est jeudi prochain.
Merci Bérangère, merci à vous. Ouais.
17h-18h, c'est tout doux sur RCF.
Quelle est la casquette que vous préférez porter ? Auteur, compositeur, interprète, scénariste ? La comédie, ça vous tente pas ?
Alors sachez que je ne porte pas de casquette. J'ai pas vraiment une tête à chapeau. Ouais. Mais avec l'âge aidant et les cheveux s'en allant, je ne sais pas, s'en volant. Quand j'étais enfant, parce que mon grand-père dont on parlait tout à l'heure et un de mes oncles étaient chauves complètement, et il m'avait fait croire que c'était en se penchant à un balcon que leurs cheveux s'étaient et ça m'avait donc empêché de me pencher trop dangereusement à des balcons
pendant au moins
une dizaine d'années.
Et ça a l'air de marcher toujours, hein. Vous avez une belle chevelure.
Si vous voyez, si vous étiez un peu la Yann Arthus Bertrand de la radio et que vous voyez ça à vol d'oiseau, vous verrez que tout s'en va. Malheureusement.
Donc par rapport aux casquettes, j'ai bien entendu, vous ne portez pas de casquettes. Ce qui veut dire quoi? Que vous habillez, oui. Vous portez tous les costumes, c'est ça?
Non, je crois que ça reste de l'écriture surtout. C'est juste comme un peintre qui aurait plusieurs supports, qui pourrait faire de l'aquarelle, la peinture, la gravure sur bois, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai une émotion et je peux la mettre soit dans une chanson, soit dans un roman, soit dans tout à la fois. Je peux la distiller, je peux la fondre, mais généralement, moi j'adore l'idée de François Truffaut, qui est le cinéaste, qui raconte que, comme on a parlé jardin, on pourrait penser que c'est peut-être Truffaut le jardinier, non, c'est Truffaut,
c'est
Truffaut le cinéaste, oui le réalisateur. Truffaut le réalisateur, il dit que chacun de nous, on a 3-4 thèmes qu'on n'arrête pas de ressasser tout le temps. Et par exemple, Bérangère, vous avez peut-être, vous, 3-4 thèmes que vous n'arrêtez pas de ressasser.
Dans ma vie, au quotidien, ouais. Des thèmes, ouais. Vous pouvez m'éclairer un peu sur les vôtres?
En fait, par exemple, Marguerite Duras, on pourrait très bien dire que ses thèmes, c'est la famille, la maison, l'amour fou. Et voilà, il y a 3-4 thèmes qu'elle n'arrête pas de ressasser.
À vous, il y a l'amour, déjà.
Alors, comme
vous,
ça.
C'est l'amour, c'est sûr.
Oui, alors moi, j'en sais rien, mais en tout cas, j'aime bien travailler.
Vous savez forcément. Puisque vous œuvrez. Donc les trois autres, c'est quoi?
C'est à vous que je pose la question.
Oui, j'entends, mais c'est vous l'invité.
D'accord, ok.
Dites-moi, l'amour.
J'en sais rien, mais oui. Je pense que l'enfance, puisque c'est pour ça que j'écris aussi des livres jeunesse, c'est un thème. Et comme moi, j'ai eu des parents à l'école, je mettais que font vos parents? Je mettais retraités déjà, parce qu'ils étaient très vieux. Enfin, par rapport à mon âge, j'avais plutôt des rapports grands-parents enfants. Donc il y a ce thème aussi, sans doute qui est un thème très nabokovien, qui est ça, il y a beaucoup ça chez Vladimir Nabokov, du paradis perdu de l'enfance. Il y a aussi ça chez Romain Gary, évidemment. Enfin, chez beaucoup d'écrivains, j'ai l'impression qu'il y a pour peu qu'on ait eu une enfance heureuse, ou qu'on ait eu la chance d'avoir une enfance heureuse.
Ça a été votre cas, vous diriez ça, encore aujourd'hui?
Ça a été mon cas. Oui, ça a été mon cas. C'est pour ça. Et en plus, comme j'étais enfant unique, je suis le seul témoin de mon enfance. C'est-à-dire qu'il n'y a personne avec qui je peux partager des scènes ou des choses que j'ai vécues dans mon enfance. Donc c'est très important dans mon écriture, cette nostalgie d'un paradis perdu. Et puis en plus on avance et plus l'époque est difficile. On se rend compte, quand les gens de ma génération, qu'on a quand même eu une enfance, pour peu qu'elle ait été heureuse, une enfance assez privilégiée par rapport à l'époque d'aujourd'hui.
Et vous voulez quand même un enfant, peut-être?
Bon, l'avenir, je ne sais pas, peut-être.
Oui, mais je veux dire, cette réflexion ne vous fait pas dire « Oh, moi j'ai eu une belle enfance, aujourd'hui je ne sais pas du tout à quoi va ressembler nos prochaines journées et heures, j'ai quand même envie ».
J'en sais rien, mais c'est une réflexion que je peux comprendre. Par contre, si quelqu'un me dit ça, je pourrais entendre cette préoccupation, cette hésitation.
À cette heure-ci, je vous propose d'ouvrir la boîte à tout doux.
La boîte à tout doux.
Ou la boîte en bois, comme vous voulez. Vous la voyez, elle est ici, une jolie boîte en bois qui contient des questions avec des numéros. Au dos des numéros, nous avons des questions. Vous avez le choix entre 1 et 18. Quel numéro choisissez-vous ?
Ben, je vais prendre la date d'anniversaire de la grande Sophie, je vais prendre le 18.
Alors, est-ce que vous vous souvenez d'un objet quotidien qui n'existe plus et qui vous manque ?
Non, j'ai pas de... Non, je m'adapte très bien.
Ah, oui.
Je m'adapte très bien au monde tel qu'il va. Non. Puis en plus, les trucs qui ne manquent pas aujourd'hui sont les objets. Vu qu'on est saturé d'objets, je pense que
vous avez tout
au contraire. Oui, au contraire, c'est le manque qui me manque. C'est le manque d'objets. c'est la liberté de pas avoir un téléphone toujours dans la main ou peut-être qui me manque peut-être.
Vous avez précisé que le 18 était la date de naissance de la grande Sophie. C'est le vôtre aussi. Hein, je le rappelle et je le précise pour ceux qui nous rejoignent. Est-ce que vous avez un autre numéro à me donner?
Je vais prendre le numéro 7.
Et pourquoi ?
Hein, parce que dans le jeu de tarot, c'est le chariot. Ah non, pardon, je peux changer ? Je peux prendre le 17, c'est l'étoile.
D'accord.
L'étoile, c'est joli, l'étoile.
Très bien.
Donc l'étoile, c'est dans le tarot divinatoire, vous savez, elle est jolie, la carte du 17. C'est l'étoile.
L'expression que vous dites souvent ?
L'expression que je dis souvent. Alors, vous savez, on n'est jamais juge de sa propre parole, mais en tout cas dans mes ateliers d'écriture, souvent, je fais une boîte quand j'ai des stagiaires sur une semaine, je fais une boîte à du coup. Et chaque fois que quelqu'un dit du coup, il met 50 centimes ou 20 centimes dans la boîte.
Vous devez être riche à la fin de la session.
Et à la fin de la semaine, mais on va s'offrir des trucs, mais incroyable.
Ah oui, les E aussi. Pensez à ça peut marcher. Les étudiants prononcent beaucoup ce mot-là, enfin pas que d'ailleurs.
Et aussi un truc, les gens qui mettent « et » avant « bonjour », qui font « et bonjour ». Vous n'avez jamais entendu ? Je trouve ça bizarre. Je n'ai jamais osé leur dire.
Mais avant,
je trouve ça
vous
un
devriez
peu, un... Je trouve ça bizarre. Je n'ose pas, mais ça me perturbe à chaque fois.
Je termine avec une autre question. Je ne vous pose pas le numéro, mais je l'aime bien celle-ci. Le meilleur conseil que vous ayez reçu, que vous pourriez d'ailleurs nous offrir, qui a jalonné ou façonné votre vie ?
Non, peut-être. Tout de suite, je pense à une phrase de Goethe que j'aime bien, qui est... Il y a deux phrases. Il y a une de Goethe qui dit la vie est courte, mais la journée est longue. Ça n'a rien à voir avec votre question, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit.
Oui, c'est très drôle.
Et il y a une phrase de Francis Picabia, le dadaïste, que j'adore, qui dit la seule façon d'être suivi, c'est de courir plus vite que les autres. Voilà, je trouve ça très drôle aussi.
Ça l'est. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter à présent ?
Je sais pas, peut-être plus de succès encore, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est dans une société
Il n'est pas rassasié. Précise quelque chose quand même. Vous avez été à de nombreuses reprises récompensé, je pense notamment au prix AMIC, décerné par l'Académie française pour votre roman L'âge des amours égoïstes. Et il dit oui, oh, ça va.
Non, mais plus de visibilité, en tout cas, plus de succès public. Parce qu'aujourd'hui, et je parle pas seulement en mon nom, mais je parle pour toutes les autrices, tous les auteurs, toutes les écrivaines et les écrivains qui vendent pas comme ça des milliers de livres et qui sont un peu dans un entre-deux, c'est très compliqué aujourd'hui de se maintenir, vu aussi le prix exorbitant du livre. C'est très compliqué de pouvoir continuer à écrire des livres si on n'en vend pas à un moment donné beaucoup.
Bien sûr.
Donc c'est ça qui est compliqué, c'est toujours être assez malin pour se donner les moyens de continuer à travailler et à écrire et à faire une œuvre. Donc voilà,
je souhaite de toujours être rusé,
plus de reconnaissance et de visibilité.
Oui, c'est ça. Je vous le souhaite fort. Ainsi s'achève cette émission. Je voudrais qu'on la termine en musique avec vous, avec soit le jeune homme changé en arbre, soit Demain sans importance. Que choisissez-vous?
Ah ben c'est moi, je vous avais demandé de choisir pour moi.
Ah bon ? Alors si je choisis pour vous, je choisis Le jeune homme changé en arbre.
Ah ok, très bien.
Vous
c'est
en
un peu triste,
quoi ?
Mais c'est beau, vous allez voir.
Ouais,
c'est
parce que
un
vous
peu triste,
trouvez que Demain sans importance, c'est plus joyeux ?
Alors c'est beau et c'est un peu triste, tandis que l'autre est triste et beau.
Et triste. J'ai beaucoup aimé les paroles, j'espère que nos auditeurs vont également se plonger dans votre univers.
Merci Bérangère, c'est passé contrairement à la phrase de Goethe, mais c'est passé en un éclair cette émission, tellement c'était agréable.
Le plaisir était vraiment partagé. À très bientôt Jérôme Attal.
À très bientôt, merci beaucoup.
de l'écorce des érables, de quel bois sommes-nous faits? Encore un corps désirable qui touche à l'été. En été, on passe à table, on se mouille bien volontiers. Moi, je me changeais en arbre quand tu me regardais. Depuis que tu t'es gravé dans mon souvenir, tout en moi s'est aggravé, je voudrais mourir. Je ne peux plus m'approcher de voir l'été, il me tarde. Et rien que d'y songer, je me change en arbre. Je ne suis pas fait. La moindre entorse me freine, le temps passe et m'effraie. Jusqu'au cou lamentable, dans l'eau froide des marais. Je me changeais en saule quand toi tu t'en allais.